Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre zone.
Autre zone.
Bonjour, Agnès Moussion, heureuse de vous retrouver. Généralement, nous devrions souhaiter une bonne année 2025. Mais les contextes politiques nationales et géopolitiques internationales sont assez déprimants. Aussi, on va se souhaiter la meilleure année 2025 possible. Aujourd'hui, avec vous, pour une émission Autre Monde, Autre Zone, qui traitera de la place et du financement de la culture et de l'économie sociale et solidaire. Vous avez entendu partout et sur tous les tons le matraquage d'informations sur le budget français, en grand déficit, ça c'est vrai, et donc il convient de combler en faisant des coupes, de combler ce déficit en faisant des coupes très sévères dans les budgets des services publics et de l'économie sociale et solidaire. Une autre information est possible sur Mediapart, Le Média, Alternatives économiques, Politis, Jet FM et d'autres. Par exemple, vous entendrez des explications qui vous permettront de comprendre que les impôts payés par les Françaises et les Français financent des aides aux entreprises, aux multinationales, et les multimilliardaires comme Bolloré et Arnault, entre autres, qui gagnent des milliards, ne paient pas d'impôts. Tout cela s'appelle l'optimisation fiscale. Donc, nos impôts financent des entités déjà bien à l'aise financièrement et le déficit creusé par le manque de taxation à l'impôt et par ces financements inappropriés font que celles et ceux qui paient des impôts en France doivent payer deux fois. Et oui, une fois pour des financements aux entreprises et une deuxième fois pour combler les trous que ces financements ont creusés. Totale injustice, donc. Bref, il faut trouver de l'argent, ça on entend ça tous les jours. Donc l'État fait des coupes sévères dans les services publics, école, santé, justice, etc. Et également auprès des collectivités territoriales. Alors, une autre solution est possible. Hein. Si vous voulez aller vous renseigner sur le site d'Attaque 44 ou Attaque France, vous verrez que l'on réclame depuis longtemps que les multinationales et les multimilliardaires paient leur, non pas leur juste part d'impôts, mais un petit peu d'impôts. Ainsi, cela permettrait de résorber une bonne partie du déficit. Comme vous avez déjà pu l'entendre sur Jet FM, par exemple, dans le zapping, dans des émissions également, et puis dans les différents journaux, la région des Pays de Loire a largement contribué à la réduction des subventions allouées au secteur de la culture et de l'économie sociale et solidaire. Christelle Morancet est allée bien au-delà des 40 millions d'économies demandées par l'État en proposant 100 millions d'économies. Pour expliquer les conséquences de ces restrictions budgétaires, je laisserai la parole à plusieurs parties prenantes des secteurs de la culture et de l'économie sociale. prendront donc la parole dans cette émission Nora, Gaël et Pierre de l'Assaut Solidaire, Estelle de Sud Culture et Patricia Collère de l'Union Fédérale d'Intervention des Structures Culturelles, UFISC, et coprésidente du MES, Mouvement pour l'économie solidaire. Des chants militants seront diffusés dans l'émission et je vais laisser Nora nous les présenter.
Certains des camarades ont écrit des paroles sur des chants, sur des mélodies qui sont connues, qui ont permis d'être chantées facilement, d'être diffusées facilement en manifestation à différents endroits. Et ça, c'est chouette aussi, c'est une manière peut-être plus facilement identifiable comme une action joyeuse, qui n'est pas la seule, mais qui fait partie des diversités d'actions possibles. Et du coup, voilà, pour présenter un petit peu le réseau de chorales que vous entendrez dans certains des morceaux qui seront diffusés dans cette émission. Et bah, c'est le réseau de co-chorales militantes, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est plusieurs chorales, comme notamment la des Brailles, les Renversées, les Dissonantes, la zone floue, les Rurales. Et voilà.
Un petit budget s'envole, et c'est la culture qui dégringole. Fais gaffe, Morancet, on est super déter, et la résistance décolle. Un petit budget s'envole, et c'est le planning qui dégringole. Enfin, Morancet, mais qu'est-ce que tu fais? Et la résistance décolle, un petit budget s'envole, et c'est la santé qui dégringole. Fais gaffe, Morancet, on est super déter, et la résistance décolle, un petit budget s'envole, et un petit budget s'envole.
Donc, je suis Patricia Collère, donc déléguée générale de l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, et c'est une union qui s'est formée pour défendre les associations artistiques et culturelles et plus largement les initiatives d'économie sociale et solidaire sur la base de la non-lucrativité, c'est-à-dire s'inscrire dans l'intérêt général, s'inscrire dans l'utilité sociale et essayer de penser une autre manière de conduire des démarches, à la fois à partir des initiatives des citoyens et des citoyennes et en même temps en s'inscrivant dans une économie qui soit plus plurielle, qui ne soit pas ramenée à l'économie de marché ou l'économie concurrentielle, mais qui au contraire essaye de porter une démarche de solidarité, une démarche de meilleure égalité. Et dans le champ spécifique de artistique et culturel, nous essayons de penser la diversité artistique et culturelle et la culture comme une exigence, un respect des droits fondamentaux des personnes pour leur dignité culturelle, pour le respect de leurs ressources culturelles et puis évidemment pour leur capacité à participer, à contribuer de cette vie culturelle. Donc aujourd'hui, le champ artistique qu'on représente au travers de nos 2500 structures adhérentes, c'est... On va dire la multiplicité de ces initiatives qui sont répandues partout sur les territoires, hein, qui maillent le territoire, qui sont aujourd'hui plus de 360 000 associations à un niveau, au niveau du territoire national, dont 40 000 associations plutôt employeuses, ainsi qu'une centaine de coopératives, voire de sociétés commerciales à finalité non lucrative, à finalité d'utilité sociale. Et tout cet ensemble essaye, depuis maintenant des dizaines d'années, de construire une espèce de phénomène de société qui porte cette question artistique et culturelle sur le territoire. Et on pourrait parler donc plus largement. Ils rejoignent d'autres initiatives de l'économie sociale et solidaire, puisque en tant que coprésidente en effet du mouvement pour l'économie solidaire, on essaye de penser la question de ces initiatives qui sont dans tous les champs de l'agriculture, le champ de l'habitat, le champ des ressourceries en ce qui concerne la transition écologique, le champ éducatif, le champ social. Aujourd'hui, partout, on voit ces initiatives œuvrer quotidiennement aux côtés, je dirais presque plus qu'aux côtés des concitoyens et concitoyennes, puisque c'est eux et elles qui forment les ressources humaines, qui forment les capacités, les pouvoirs d'agir, comme on dit, pour faire vivre ce champ associatif. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 10% de l'économie française, mais c'est surtout des millions de bénévoles engagés, surtout des milliers de salariés aujourd'hui qui sont en effet mis en danger dans le contexte actuel au regard des baisses de financement que l'on dit à la fois au niveau national et au niveau surtout des collectivités territoriales. Parce qu'il faut savoir que le modèle économique de ces structures, comme elles sont non lucratives, comme elles sont d'utilité sociale, leur projet n'est évidemment pas le profit, mais c'est d'agir de manière utile, de manière à faire advenir des formes de transformation dont on a besoin pour plus de justice sociale, pour plus d'écologie, pour plus de capacité de cohésion sociale. On en a fort besoin aujourd'hui quand on voit la montée des idées de repli, des idées d'extrême droite de manière générale. Et aujourd'hui, on a un besoin de favoriser le développement des capacités démocratiques des personnes. Et cette capacité démocratique, elle est aussi économique, on va dire, c'est-à-dire qu'elle est aussi une capacité à penser aujourd'hui, maintenant, le déjà-là d'une autre forme d'économie. Et donc, vous les connaissez, hein, les structures d'économie sociale et solidaire, c'est les AMAP, c'est les recycleries, les ressourceries, c'est ben, nos associations dans le champ artistique et culturel, c'est des structures qui vont permettre des régies de quartier. Enfin, voilà, on les trouve partout aujourd'hui sur les territoires. Donc on a besoin véritablement de compter en fait de compter de prendre appui sur ces initiatives parce que c'est prendre appui sur la démocratie citoyenne en acte et puis c'est aussi penser la richesse de notre pays autrement à partir des territoires à partir du local, à partir de là où les personnes pensent, réfléchissent leur mode de vie, réfléchissent la manière dont ils ont envie de s'organiser. Et en ça, c'est profondément démocratique et c'est profondément ce dont on a besoin pour résister à la crise, mais au-delà de résister à la crise, pour penser aussi les transformations de nos sociétés.
Donc, moi, je travaille dans une structure culturelle et on a appris à l'automne que la région se désengageait complètement de deux projets dont on s'occupe. Ce qui met à mal complètement les projets. Il a fallu qu'on les réduise dans leur format. Et évidemment, ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas tant la survie de notre structure, alors qu'il y a d'autres structures pour lesquelles c'est vraiment un enjeu. Pour nous, ce qui nous concerne, ça va être d'offrir suffisamment d'espace pour les artistes, et notamment les artistes locaux, et notamment les artistes qui œuvrent dans des esthétiques qui sont peu diffusées. Et là, on sait que c'est tout ce secteur-là qui va vraiment être en proie à de grosses difficultés dans les années à venir, parce qu'ils auront beaucoup moins d'espace pour être diffusés, voire même presque plus d'espace. Ils ne vont plus pouvoir travailler en fait de façon classique, au point où beaucoup d'artistes autour de moi se demandent s'il ne faut pas entamer une reconversion, en fait. Parce que, en fait, dans les projets qui sont impactés, il y a tout ce qui concerne la diffusion, mais il y a aussi tout ce qui concerne l'action culturelle. Et l'action culturelle, c'est le fait de travailler au sein des écoles, par exemple, ou au sein de structures du champ social. Et en fait, c'est exactement dans ces endroits où il y aura beaucoup moins d'argent et où du coup ces artistes-là, qui ont l'habitude d'intervenir, dans ces champs-là, ne pourront plus le faire.
Merci pour l'invitation, Agnès. Moi, c'est Nora.
Donc, je suis travailleuse du secteur associatif depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'ai choisi de travailler dans l'association après des études dans l'écologie internationale comme moyen de continuer à être engagée dans la construction des biens communs pour l'usage commun de manière collective. Et donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'associatif. Pardon, je m'entends en écho, du coup, faut que je m'habitue. Ah ouais. Parfait, merci Gaëlle. Voilà, et j'ai travaillé dans plusieurs associations, plutôt de taille petite ou moyenne, en tant que seul salarié ou des structures jusqu'à 6, 7, 8 salariés, donc des petites associations, qui, dans des champs d'intervention aussi variés, donc d'abord dans l'écologie, l'agriculture urbaine, ensuite dans la solidarité internationale et les droits humains, et plus récemment dans le secteur large, qui est l'économie sociale et solidaire. Et puis aussi une autre caractéristique qui est peut-être importante, qui me définit aujourd'hui et qui définit depuis là où je parle, c'est mon engagement syndical, parce que je suis aussi adhérente à un syndicat qui s'appelle Asso Solidaire, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur associatif rattaché à l'Union syndicale solidaire. Et voilà, je suis membre active de la section locale du département de Loire-Atlantique. Voilà pour les quelques présentations me concernant, avant de laisser la parole justement à mes camarades du syndicat aussi.
Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Gaëlle. Je suis salariée du monde associatif et plus particulièrement dans le monde agricole, en fait, pour un organisme d'agriculture paysanne. C'est donc deux secteurs qui sont touchés. Donc le monde associatif, donc mes camarades d'asso solidaire en ont préalablement parlé, et puis le monde agricole qui est particulièrement, enfin l'agriculture paysanne alternative est particulièrement touchée. Il y a eu différentes coupes budgétaires d'annoncées qui concernent tout d'abord tous les syndicats agricoles, donc en fait les syndicats régionaux, en fait la chambre d'agriculture. Il y a eu une régionalisation des compétences concernant l'agriculture. Donc, c'est la région qui a récupéré pas mal de compétences donc, sur l'agriculture, sur l'installation, sur les changements de, enfin, la transition écologique, sur l'adaptation au changement climatique. C'est des compétences qui sont revenues à la région. Et on a, depuis l'année dernière, une chambre d'agriculture qui est régionale. Et on est d'ailleurs en plein dans les élections chambre d'agriculture. Et en fait, cette régionalisation des compétences de l'agriculture, ça a entraîné en fait, une structuration de tous les organismes agricoles qui ont dû se structurer pour pouvoir faire du lien sur tous les territoires de la région. Donc, par exemple, les syndicats ce sont, ont des antennes régionales. Qui font le lien entre tous les syndicats départementaux pour travailler sur des sujets qui seront vus ensuite au niveau de la région. Donc c'est par exemple l'aide à l'installation pour les agriculteurs, c'est l'aide à l'adaptation au changement climatique, etc. Et donc là, il y a eu suppression des subventions donc à tous les syndicats. Ce qui va nettement compliquer en fait le travail qui peut être fait en fait, enfin les capacités d'animation, de suivi et de représentation de la profession agricole et notamment en fait des syndicats minoritaires puisqu'ils ont largement moins de moyens et en fait ces subventions-là c'était enfin le une grosse part de leur budget, quoi. Plus, enfin, environ 70% des budgets de ces syndicats, puisqu'ils font que de la coordination entre tous les territoires. Et il y a eu aussi voilà, une baisse de budget sur tout ce qui est en fait, formation pour les réseaux bio, pour l'accompagnement des personnes en difficulté dans le monde agricole. et puis tous les organismes de développement agricole.
Je peux citer un exemple des conséquences que ces coupes de budget au niveau de la région peuvent avoir dans l'accompagnement du public en insertion. Donc on a beaucoup entendu parler des conséquences sur les missions locales qui vont perdre tout leur financement de la part de la région à partir de cette année. Donc c'est les missions locales accompagnent les jeunes de moins de 26 ans. Mais ça va bien plus. Les coupes budgétaires ont un impact bien plus large. Par exemple, dans le domaine de la mobilité et de l'accompagnement du public en insertion sur des solutions de déplacement et de mobilité solidaire. Aujourd'hui, on a plus de 15 millions de personnes qui rencontrent des difficultés de déplacement en France et qui sont bloquantes pour pouvoir accéder à un emploi. On a plus de 75% des jeunes qui ont déjà dû renoncer à une formation ou un emploi à cause de manque de solutions de déplacement. Et donc les associations qui œuvrent dans ce domaine des mobilités se sont vues réduire leur budget. Et donc concrètement, ça peut se matérialiser par plusieurs... sur plusieurs formes, c'est-à-dire que ça va être des actions de formation en moins auprès du public en insertion, donc des actions de formation pour pouvoir accéder par exemple à un permis de conduire. Ça peut être aussi des solutions matérielles de déplacement en moins pour le public en insertion, donc des offres de location de scooters, de vélos, de voitures en moins sur les territoires. Et donc, ces coupes budgétaires qui impactent les associations qui mettent en œuvre ces politiques-là auront un impact directement sur l'emploi dans la région Pays de Loire.
Merci. Effectivement, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, Nora?
Ben oui, c'est vrai que... Il y aurait beaucoup de choses à dire. Agnès, tout à l'heure, tu relevais que c'était intéressant pour toi d'entendre toute la diversité des secteurs qui sont représentés autour de la table ou qui ont été mentionnés par les uns les unes les autres. C'est vrai que c'est un peu la richesse du secteur associatif qui est, selon moi, selon nous, trop invisibilisée. Et du coup, là, cette discussion va permettre de redonner un petit peu de juste place à tout le travail associatif. Avant de développer un peu, j'ai envie de citer d'autres secteurs qui n'ont pas encore été mentionnés. Par exemple, en fait, le secteur associatif, c'est tout le tissu social de nos territoires qui sont accompagnés par des dynamiques locales organisées en réseau à différents échelons. Donc, le sport a été cité, les associations agricoles ont été citées, on a parlé des associations culturelles, on a parlé aussi de la solidarité de manière générale, mais qui comprend justement des projets sociaux qui accompagnent des publics en situation de vulnérabilité, que ce soit sur les questions de genre ou d'égalité homme-femme, sur les questions de violence, l'accompagnement de publics jeunes, l'accompagnement de personnes en situation de migration ou arrivées récemment. En fait, là, je viens de dresser une liste, mais je suis sûre qu'elle n'est pas exhaustive et qu'on pourrait en citer d'autres. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que l'associatif, finalement, en France et particulièrement en région Pays de la Loire, enfin, parce que là, on se situe en région Pays de la Loire, a une importance capitale pour justement construire des dynamiques locales, départementales, régionales, nationales, et construire des services qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos territoires. Nous, on est un syndicat qui justement s'organisons depuis quelques années maintenant. C'est un syndicat qui est né il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est aussi parce qu'on croit finalement à l'importance du secteur associatif en tant que professionnel de l'associatif. Mais ça fait aussi longtemps que justement on alerte sur tout un tas d'enjeux transversaux qui touchent à l'associatif, peu importe les secteurs d'intervention. À savoir que finalement, en vue du travail extrêmement important des associations, Il y en a beaucoup qui ont des délégations de services publics, par exemple. Donc, ça veut dire que l'État ou les collectivités se reposent beaucoup sur les travaux, sur les services qui sont produits par les associations, les professionnels, les salariés, mais évidemment en collaboration avec tous les bénévoles, que ce soit des dirigeants ou enfin voilà, des bénévoles. Et voilà, on remarque depuis un certain nombre d'années déjà que les associations, elles font beaucoup, mais toujours avec de moins en moins de moyens. La baisse des subventions, le passage par exemple des financements dédiés au fonctionnement des associations vers une bascule de plus en plus vers des appels à projets, des appels d'offres, etc., ou alors qui poussent les associations à augmenter leur vente, par exemple, à diversifier leurs revenus, c'est aussi le résultat d'une mise sous pression financière qui est de plus en plus importante dans le secteur associatif et qui touche toutes les associations à toutes les échelles d'organisation territoriale. Et donc, c'est vrai que, pour refaire le lien avec les coupes budgétaires de la région et sans parler pendant une heure, mais voilà, pour aussi visibiliser qu'il y aurait énormément de choses à dire, et cette annonce-là, malheureusement, elle n'est pas nouvelle, on va dire. Elle était surprenante de par la brutalité et la rapidité de sa mise en œuvre et surtout la façon dont Christelle Morançais a décidé seule les méthodologies de dialogue avec les différentes associations, etc. Donc ça, c'était surprenant. Mais c'est la suite aussi d'une conjoncture, en fait, qui est plus une conjoncture, elle devient structurelle. La baisse des financements est dans un contexte de dévalorisation, de précarisation toujours plus fort des associations. Et donc voilà, nous, en tant que syndicat, en tout cas, on est extrêmement préoccupés par cette coupe budgétaire qui continue d'être le début d'une dégradation de nos conditions de travail et de nos moyens pour assurer nos missions et qui vont avoir aussi des effets en cascade énormes parce que, par exemple, le département de Loire-Atlantique a déjà annoncé suivre un petit peu les orientations de la région. Par exemple, dans le milieu culturel, le ministère de la Culture, contrairement au discours que peut avoir Rachida Dati, publiquement, en fait, annonce aussi des coupes budgétaires qui sont importantes. Bref, voilà. C'était pour dresser aussi un espèce de panorama généraliste, tout en mettant le focus aussi sur l'extrême importance de tout ce que produit le secteur associatif et de son importance sur les territoires.
Pour préciser, le département se désengage, mais pas du tout pour les mêmes raisons que la région. Ce n'est pas du tout des raisons idéologiques. Je parle du secteur culturel. La politique culturelle du département est bel et bien normalement d'aller vers les publics, et notamment les plus fragiles, et notamment les plus éloignés de la culture. En revanche, ils sont très soumis à ce qu'ils appellent les droits de mutation. C'est ce qui génère une grosse partie de leurs recettes. Et les droits de mutation, en fait, c'est ce qu'on paye quand on achète un bien immobilier. Et vu que le marché s'est un petit peu effondré ces dernières années, ils ont eu une grosse baisse de leurs recettes. Ce qui fait qu'ils ont un budget qui est déficitaire. Qui n'est pas encore voté d'ailleurs pour 2025, hein, mais dont on pressent tous qu'il est déficitaire. Voilà. Donc c'est vrai que on est dans un contexte où la région se désengage violemment, comme vient de le dire Nora, et le département se désengage là pour le coup avec beaucoup plus de tristesse et de frustration, mais que en fait tout le secteur associatif se retrouve doublement coincé en fait par cette perte de budget. Et ce que je voulais rajouter également, c'est que eh bien en fait l'impact, il est certes sur nos missions, notre travail au quotidien, mais surtout l'impact, il va être pour le public, quel qu'il soit. Alors, par exemple, dans le secteur culturel, il va y avoir moins de concerts, évidemment. Il va y avoir moins d'actions culturelles, donc auprès des publics spécifiques, auprès des enfants, dans les écoles publiques, par exemple. Et c'est ce que tu disais, Agnès, tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, notre problème, c'est que nous, on discute entre nous, on est tous convaincus, mais le grand public ne se rend pas forcément compte de ce qui va se produire dans les années à venir, en fait. Et c'est là la difficulté et le cap qu'on n'arrive pas à passer collectivement, finalement.
Jet FM, autre monde, autres ondes, avec Attaque 44.
Mes amis, camarades, luttons avec courage contre les bourgeois qui organisent le carnage de toutes les associations de notre région. Nous ne voulons plus d'elle comme dirigeante. Yelle nous ruine, yelle nous pille de tout notre argent. Yelle nous prenne services publics et droits fondamentaux. Et maintenant, c'est la culture, auquel fléau. Mais ensemble, en luttant, on va les remplacer. Et l'argent, on va
récupérer.
Et notre argent, on ira le récupérer. Allons-nous rester là à les regarder nous voler 100 millions et tout ça sans broncher. Mais ensemble, bien nous pouvons enterrer leur budget. Rien n'est joué, rassemblons-nous pour tout changer.
Dans l'idéal, comment tous ces services publics devraient être financés?
Je vais te frustrer peut-être parce que j'avais envie de rebondir aussi. Et je vais essayer en improvisant de faire un lien et pouvoir répondre, enfin, apporter des éléments de réponse à ta question. Mais avant ça, je voulais rebondir sur le fait qu'on est aussi réellement dans une bataille d'idéologie et de projets politiques et de projets de société. On ne pourrait pas vous citer toutes les dingueries, désolée pour parler comme ça, mais que Christelle Morançais, elle a cité dans ses différentes prises de parole publiques ou alors sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi énormément de mépris qui ressort de ces prises de parole et qui vont un peu dans le sens de cette invisibilisation, dévalorisation, délégation de tout un tas de missions aux associations sans leur donner les moyens de continuer à faire leur travail et pour autant qui portent à bout de bras énormément de choses dans la société. Et puis là, en plus, c'est insatisfaisant ce dont on a parlé jusqu'à présent parce qu'on ne parle pas aussi des micro-associations qui sont tellement petites ou aussi dans ce climat d'invisibilisation du travail qui est fait, de morcellement progressif des réseaux associatifs. C'est de plus en plus difficile pour les petites associations qui sont un peu isolées ou qui peuvent finalement être très vite stigmatisées dans un climat, pour faire le lien aussi avec le climat politique qui est en train de se polariser extrêmement et qui se sent à différents... Enfin, bref. Vous m'aurez compris, je finis pas ma phrase, mais je crois que vous m'aurez compris. Et ben voilà, qui fait qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui ont du mal à prendre position ou à parler de ce qu'elles vont subir et ce qu'elles vont vivre et de l'effet que ça va avoir sur leurs actions avec les coupes budgétaires régionales. Donc aussi, petite pensée à toutes ces associations qui sont isolées et dans des situations complexes. Et voilà, et après, tu disais aussi, Agnès, que... on va devoir
bah, entamer des plans de reconversion, etc. Et je faisais non, non de la tête. Enfin, évidemment, les gens ne pourront pas voir ce signe-là, mais ça, c'est venu me chercher loin parce que justement, nous, au niveau du syndicat, on essaye de réfléchir à comment justement on peut continuer de s'organiser pour bah, avoir un poids à un moment donné. Alors, le chemin va être extrêmement long, puis il y aurait plein de choses à dire pour expliquer en quoi finalement c'est difficile de mobiliser les gens. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas arrêter de se battre, ça je voulais le citer. Et puis pour essayer de faire le lien avec ta question, bah, comment financer les services publics, c'est une question qui est tellement technique que moi je ne me risquerais pas à donner des éléments précis. En tout cas, je peux peut-être témoigner des espaces de discussion et de réflexion qu'on essaye de construire au niveau syndical pour justement aborder ces questions-là. C'est des réflexions qui ne sont pas du tout abouties, mais déjà le fait qu'elles existent, c'est intéressant à savoir comment est-ce qu'au niveau associatif, on peut bah, s'émanciper de la mise sous tutelle des assos avec le financement. Dépendante des financements publics, etc. Ou alors de plus en plus aussi avec l'évolution des modes de financement des associations, il y en a de plus en plus qui vont par exemple chercher du mécénat ou alors des dons pour, enfin, qui fonctionnent de plus en plus parce que les entreprises avec les systèmes de défiscalisation bah, vont donner beaucoup plus, donner facilement pour payer moins d'impôts. Et ça, c'est aussi révélateur du système, enfin, de l'évolution. Néolibérale dans laquelle on vit, que finalement c'est les entreprises privées qui vont choisir où réaffecter les financements qui à la base sont censés être de la redistribution et des biens communs, quoi. Donc c'est assez, assez. Ça fait froid dans le dos, mais voilà, du coup, trop difficile de répondre à ta question, mais c'est sûr que c'est présent au niveau national et local dans notre réseau syndical de comment créer des systèmes où on serait émancipé aussi financièrement et comment on pourrait financer les associations et les services d'association et du coup les services publics de manière plus indépendante. Mais je te laisse la parole à mes camarades. Pardon, j'ai parlé beaucoup.
Moi, je veux bien
Oui, vas-y.
Parler. En fait, sur le financement des associations, il y avait un des arguments de Christelle Morançais, c'est souvent de dire qu'une subvention, ce n'est pas acquis en fait, les associations ont tendance à croire qu'elles ont une subvention et que voilà. Mais en fait, peut-être que c'est important de rappeler que. Déjà, le financement des associations et des subventions, il s'est nettement complexifié. En fait, il n'y a pas d'association qui reçoit des subventions sans avoir derrière un projet et des rapports à rendre, enfin, avoir un rendu derrière de ce qu'elle a produit, de ce à quoi cette subvention a servi. Il faut peut-être aussi préciser que dans la précarisation, enfin, la précarisation des associations, c'est que le mode des subventions a aussi énormément évolué. Il y a de plus en plus de subventions qui proviennent de fonds européens. Donc, c'est des subventions qui sont très, très complexes, qui demandent énormément de justificatifs. Enfin, c'est des heures et des heures de travail pour justifier qu'on a bien fait telle chose et telle chose. Donc, c'est vraiment pas des choses qui sont, enfin, de l'argent qui est donné sans rien. Il y a aussi. En fait, énormément maintenant de financement d'associations qui passent par des marchés publics. Donc, pareil, c'est des nouvelles compétences que doivent acquérir les salariés d'associations. Elles doivent rentrer dans un marché compétitif qu'est le marché public. Et puis, voilà, peut-être rappeler qu'effectivement, beaucoup de missions des associations, c'est rempli, en fait, c'est pallié à un manque de services publics. Peut-être si je peux revenir sur le milieu agricole, en fait, il y a pas mal de subventions qui, en fait, le milieu agricole, c'est un milieu, on en a largement entendu parler cette année, c'est un milieu qui est confronté à énormément d'enjeux. Il y a un énorme enjeu de renouvellement des générations, où il y a toute une génération là, d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, et c'est un métier qui n'est pas attractif. Donc, on n'a pas assez de personnes à installer pour pallier au nombre de départs à la retraite. Donc, il faut aider à l'installation. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc, ils arrivent, il leur manque tout un capital qu'ils auraient pu apprendre de leurs parents qui étaient agriculteurs. Donc, en fait, il faut pallier à ce manque-là. Il faut arriver à les insérer dans un milieu rural et agricole. Donc, il y avait pas mal d'associations qui remplissaient justement ces missions-là. Il y a aussi le gros défi qui est le changement climatique. Et donc, il y a beaucoup d'associations en fait, qui recevaient des subventions pour aider les fermes à s'adapter au changement climatique et du coup à adopter des modèles qui sont résilients. Et en fait, tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Changer ses pratiques agricoles, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être accompagné, il faut être formé. Et pour ça, c'est des politiques budgétaires que l'État doit avoir. En fait, si on veut un modèle de société, il faut derrière mettre des moyens qui accompagnent ce modèle de société qu'on souhaite.
Je pense que, effectivement, tous les citoyens et citoyennes pourraient être amenés à nous soutenir et à défendre nos valeurs. Nous, en tant que syndicat de salariés du secteur associatif, notre objectif, c'est aussi d'inciter les travailleurs et travailleuses du secteur associatif avant tout à se mobiliser et leur structure employeuse également pour visibiliser les difficultés auxquelles on va devoir faire face dans le futur. Faire connaître nos activités et les défendre. Et donc, il y a un réel enjeu déjà de mobilisation de nos propres secteurs qui est très, très difficile, comme l'a déjà évoqué Nora et Gaëlle. On est dans des petites structures essentiellement qui ont très vite peur de se mobiliser, de se rendre visibles. Pour ne pas risquer de perdre de financement d'autres financeurs. On est dans des situations très rapidement précaires pour un grand nombre de salariés et on sait que ces situations n'aident pas à se mobiliser pour visibiliser et défendre nos actions. Donc je pense qu'il y a aussi un gros enjeu à ce niveau-là, c'est effectivement de rendre visible auprès du grand public et d'obtenir le soutien du grand public. Pour ces causes, mais avant tout de commencer par pouvoir mobiliser les premiers et premières concernées, qui sont les salariés dans ce milieu-là.
Merci.
Pour juste compléter les propos de Pierre, c'est que oui, moi j'appellerais en fait à une grande mobilisation des salariés du secteur associatif pour qu'ils se syndiquent. Parce que c'est un milieu où les salariés ne sont pas très syndiqués pour plusieurs raisons. Mais je pense qu'il y a aussi, entre autres, la raison moi, je n'ai pas de problème avec mon patron. Il y a une bonne ambiance. Je veux pas de... Enfin, et en fait, c'est peut-être aussi rappeler que se syndiquer, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes avec le droit du travail ou avec son patron. C'est aussi défendre un modèle. Et donc, nous, en fait, en étant syndiqués à Solidaire Asso, nous, en fait, notre projet, c'est de défendre le monde associatif et de permettre des meilleures conditions de travail aux salariés du monde associatif. Donc, on peut aussi se syndiquer pour réfléchir à comment améliorer les conditions de travail des salariés et la reconnaissance des salariés du milieu associatif. On peut se syndiquer sans avoir de problème personnel avec son employeur. C'était le message que je voulais passer. Donc, rejoignez-nous à Solidaire Asso.
3, 4.
Au Morançais,
au Morançais,
au Morançais.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans un contexte de crise renforcée, à la fois au regard des baisses de financement de l'État, mais surtout des formes de désengagement de collectivités territoriales qu'on a particulièrement vu en effet en Pays de la Loire avec cette décision de la présidente de région. Qui n'était pas seulement appuyée ou fondée plus exactement sur l'économie budgétaire, mais qui était une vraie vision idéologique de casse du tissu associatif, de casse de ce tissu d'intérêt général, au profit d'une forme de marchandisation ou d'une forme de libéralisation plus forte, hein, puisqu'elle renvoyait les associations à un modèle économique qui est celui des entreprises commerciales de marché, alors que nous ne sommes pas du tout situés au même endroit, que nous n'avons pas les mêmes vocations, que nous n'avons pas les mêmes démarches. Et donc, il y a un vrai problème de fond. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la fois dans cette problématique de l'économie budgétaire auquel fait face le pays. Alors, on pourra s'interroger sur la responsabilité de ceux qui ont causé ces économies, enfin, en tout cas, ce besoin ce déficit et donc ce besoin d'économie, et par ailleurs de comment l'effort est réparti en termes d'économie. Parce que c'est vrai que souvent, on voit les financements publics sur notre sphère associative, sur notre tissu, sur les services publics, mais les entreprises privées, lucratives, commerciales sont aussi largement aidées au travers des marchés publics par du financement public, et notamment les régions les soutiennent à hauteur bien supérieure à ce qui est fait pour le champ associatif. Donc, il faudrait voir quelles sont véritablement la répartition des efforts qui sont faits. Mais plus largement, on voit au niveau national qu'il y a notamment pour les régions, alors pas du tout à la hauteur de ce que le Pays de la Loire a fait, puisque c'était une baisse de près de 70%, 62% des... notamment des crédits pour le champ culturel, avec des risques en effet de milliers d'emplois qui vont disparaître. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de baisses dans d'autres régions. Je pense à la région Île-de-France où on a eu 25% de baisse sur le spectacle vivant. On peut voir en Nouvelle-Aquitaine même ou en PACA, région sud, des baisses autour de 5-7%. Voilà, donc on voit que petit à petit, il y a une forme comme ça d'opérer de coupes budgétaires, d'efforts qui sont demandés. Mais c'est aussi au niveau des départements qu'aujourd'hui, on a une grande crainte en termes de lecture de coupes, puisque les départements, eu égard aussi à leurs compétences obligatoires sur le champ du social, sont pris à la gorge avec moins de recettes et plus de charges dans ce moment d'inégalité sociale qui augmente. Et c'est vrai que le tissu associatif, que ce soit culturel, que ce soit sportif ou dans d'autres champs éducatifs ou champs de l'éducation sociale et solidaire, se retrouve un peu cette variable d'ajustement pour les départements. Et là, on a un vrai problème également, puisque ces structures, dans le cadre des politiques départementales, sont souvent justement porteuses des politiques qui hybrident le champ culturel, le champ éducatif, le champ social, et donc qui sont vraiment aujourd'hui un des enjeux clés pour répondre à la fois la problématique de crise que vivent les Français et puis la problématique démocratique plus large que nous vivons, puisqu'elles sont vraiment dans la proximité, elles sont dans les EHPAD, elles sont dans les écoles, elles sont dans toutes les structures éducatives, et c'est à cet endroit-là qu'on risque d'avoir une coupe très forte dans les prochains temps. Autre effet domino, avec les communes qui voient, et je pense que vous le voyez en Pays de la Loire, qui voit les financements d'associations qui bénéficient dans leur modèle économique de financement croisé, parce que ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas suffisamment. En fait, les associations ont cette capacité à pouvoir répondre aux objectifs de différentes natures de collectivités territoriales, la commune, le département, la région, et donc d'inscrire des formes de coopération entre ces différents territoires en menant des objectifs associés les uns aux autres. Et là, le fait qu'elles voient disparaître certains financements de la région ou des départements fait que les communes vont se retrouver en difficulté. Et un des risques que nous avons porté en tant qu'UFISC avec un communiqué d'alerte sur la diversité artistique et culturelle, bah, c'est aussi le risque de concentration des financements qui vont peut-être solidifier ou sanctuariser les institutions, les structures les plus solides au détriment de structures plus fragiles. Et c'est un peu ce plan social à bas bruit sur ce tissu associatif, parfois plus restreint, plus modeste, plus celui de la proximité, qui risque aussi de disparaître. En tout cas, c'est l'interpellation qu'on a fait auprès du ministère de la Culture, enfin de la ministre de la Culture, puisqu'on a eu une baisse, la récente, avec le projet de loi de finances 2025 des crédits de la création et du programme Démocratie et Territoire, avec ce risque pointé de coupe budgétaire. Or, la ministre a souhaité créer un fonds d'urgence dans ce cadre-là, et nous l'avons interpellée sur le fait que ce fonds d'urgence, il fallait qu'il soit soit renvoyé au programme plus usuels qui ont été coupés, soit que ça devienne un vrai fonds d'urgence pour les enjeux culturels et qu'il ne soit pas restreint à la défense d'un certain nombre d'institutions ou de gros festivals, hein, puisqu'elle citait notamment le festival d'Aix-en-Provence, qui est plutôt un festival international d'art lyrique. On ne dit pas qu'il n'a pas des difficultés, évidemment, le propos n'est pas de dire que toutes ces structures n'ont pas des difficultés, mais qu'en effet, il va falloir voir comment on peut faire une politique de la diversité et de la solidarité qui permette quand même de sauvegarder les tissus les plus fragiles sur nos territoires.
Eh bien, merci. Ça répond bien à ce que j'attendais, une introduction générale et une conclusion de financement. On va tout faire, bien sûr, pour soutenir. Mais on fait partie, de toute façon, du secteur solidaire et social, nous aussi. Est-ce que tu vois autre chose que tu voudrais, un autre message que tu voudrais faire passer ?
Peut-être, en effet, si on regarde un peu les perspectives au-delà de la crise que l'on traverse, nous, ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est de pouvoir construire des solutions avec aussi les collectivités territoriales, parce que on a un agenda dans les 2-3 années à venir qu'on sait difficile. Il nous semble qu'il faut, d'une part, se mobiliser comme vous avez commencé à le faire en Pays de la Loire, de manière intersectorielle, interassociative, qu'il faut mener les combats ensemble, pas seulement en défendant notre secteur. On a des emplois, on a des démarches, on a la création à défendre, mais plus largement, défendre notre champ d'économie sociale et solidaire, notre champ associatif de manière plus large. Donc ça, on a besoin de trouver de la coordination intersectorielle, de se mobiliser, et c'est ce qu'on essaye de faire avec plusieurs structures à un niveau national. Je pense notamment au collectif des associations citoyennes ou mouvements associatifs, sur lequel il faut pouvoir réfléchir ensemble. Et puis le deuxième aspect, c'est en effet aujourd'hui penser des formes de co-construction territoriale arrimées à un dialogue et une analyse partagée au niveau des bassins de vie, au niveau des territoires, parce que c'est de là que viendra la réponse. Et c'est en travaillant avec l'écosystème et les collectivités territoriales qu'on arrivera à trouver les réponses pour sortir de la crise. C'est un peu comme au moment du Covid, il nous semble que vraiment il faut défendre des processus et des espaces où on va pouvoir tous se mettre autour de la table, penser la situation et réfléchir ensemble aux solutions. Évidemment, ça ne passera pas par une baisse du financement public, mais il faut qu'on puisse trouver comment faire effet levier avec plus de formes de coopération, plus de formes de mutualisation. On a plein d'idées pour ça. On a des groupements d'employeurs, on a des foncières pour aider contre la spéculation immobilière et soutenir les lieux. On a des collectifs artistiques qui savent travailler ensemble et soutenir les compagnies dans leurs espaces de travail, dans les diffusions. Il y a plein d'endroits, de projets de territoire culturel ou s'inventent des choses. Donc, il faut vraiment qu'on reparte de cette capacité à faire solidarité pour défendre notre diversité associative et notre diversité culturelle.
Ok. 13, 12.
Nos recettes, tu nous casses les reins. Tes budgets nous laissent presque rien. Méfie-toi, voici les Nantaises, bien des terres, vénères et enragées. La lutte s'embrasse, tu vas tomber. Morancet va rejoindre tes copaines, et elles t'attendent sur BFM. Morancet, tu nous casses le dos, tes budgets nous laissent sur les os. Méfie-toi, voici les Nantaises, vient des terres, vénères et enragées. La lutte s'embrasse, tu vas tomber. Morancet va rejoindre tes poteaux, ils t'attendent chez les fachos. Morancet, tu nous casses nos assauts, tes budgets les accusent KO. Méfie-toi, voici les Nantaises, vient des terres, vénères et enragées. La lutte s'embrasse, tu vas tomber. Morancet va rejoindre tes compères, et elles t'attendent droit en enfer. Morancet, tu nous casses les pieds, tes budgets nous laissent fâchés. Méfie-toi, voici les Nantaises, vient des terres, vénères et enragées. La lutte s'embrase, tu vas tomber. Morancet va rejoindre tes poteaux, et elle t'attend chez les fachos.
Ok, c'était...
Jet FM, autre monde, autres ondes, se termine. Merci aux intervenantes et intervenants qui ont bien voulu donner un peu de leur temps pour que soit diffusée une information factuelle, ce qui devrait être le cas dans tous les médias. Si vous le pouvez, venez soutenir les manifestations ou signer les pétitions, car les secteurs d'activité dont on a parlé sont présents quotidiennement dans nos vies et nous avons besoin d'eux. À dans un mois pour une prochaine émission. Salut à toutes et tous.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a laissé pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
On lâche rien.
Autre monde, autre monde, autre zone.